BFM Business présente Sandra Gandoin. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.
Bienvenue dans cette libre antenne de l'économie, comme tous les jours entre 13h et 13h30, 90 minutes business avec vous. On parle d'un sujet en entreprise le plus souvent. Vous allez voir que ça change un petit peu aujourd'hui. L'armée au défi du recrutement. On va en parler en longueur avec nos deux experts. On est en direct, en télé, en radio et sur les réseaux sociaux YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur ce thème tout au long de l'émission. Commencez dès maintenant, pour qu'on ait le temps d'y répondre, à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Vous pouvez nous écrire aussi sur les réseaux sociaux. Pascal Samama est à mes côtés, journaliste BFM Business. Votre grande spécialité, c'est l'armée, c'est la défense, Pascal.
C'est la défense.
Newsletter d'ailleurs, toutes les semaines ?
Toutes les semaines, le jeudi à 19h.
Voilà, la newsletter de Pascal Samama que vous pouvez retrouver. Et puis, avec vous, votre invité exceptionnel, Thibaut Devancé de Blavou, DRH du ministère des Armées. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Je vais vous poser une question à tous les deux pour commencer. C'est vrai qu'à une époque, intégrer l'armée, c'était assez logique. Il y avait effectivement des gens qui, dès le début de leur carrière, dès le début de leur vie professionnelle, envisageaient d'entrer dans l'armée. C'est un petit peu différent aujourd'hui, Pascal.
C'est un peu différent aujourd'hui, évidemment, parce qu'à une époque, quand on s'engageait dans l'armée, c'était principalement pour devenir un soldat, faire la guerre. Et forcément, oui. Aujourd'hui, l'armée s'est vraiment développée. Il y a des métiers, bien sûr, de soldats, c'est le cœur de l'activité, bien sûr, de l'armée, mais il y a aussi énormément d'activités qui sont pas forcément liées à la guerre, pas forcément liées aux soldats, mais qui sont indispensables pour le fonctionnement des armées. Et je crois que le DRH des armées peut en parler mieux que moi, mais c'est vraiment assez complexe et assez, pas complexe, plutôt riche, à tel point qu'on n'arrive pas à définir vraiment ce qu'il y a au sein de l'armée comme poste, comme emploi, comme nécessité.
Il y a au sein des armées, Thibaut Devancé, finalement autant de postes que dans une entreprise privée, autant de choix, j'ai envie de dire.
Alors bonjour Sandra, merci beaucoup de votre invitation. Il y a plus que dans les entreprises. Il y a plus que dans les entreprises. Oui. Parce que au ministère des Armées, comme l'a dit Pascal, nous faisons à peu près tous les métiers qui existent en France pour une raison simple, c'est que il faut être capable, y compris en situation de crise, de pouvoir continuer à construire, à entretenir nos ports, à entretenir nos avions. Et donc, nous proposons tous les métiers qui existent sans diplôme jusqu'aux étudiants qui sont sortis de l'école polytechnique, qui est une école militaire.
Alors, on a vu cette campagne de recrutement, effectivement, récemment. Est-ce que c'est une opération exceptionnelle ou est-ce que finalement l'armée recrute de façon assez régulière de cette façon ?
Alors, ce n'est pas une opération exceptionnelle pour une raison simple, c'est que le ministère des Armées, c'est 270 000 personnes, dont 25% sont d'ailleurs des civils, et nous recrutons 30 000 personnes par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. C'est 600 personnes par semaine que nous recrutons.
Ouais.
Voilà. Et donc, nous avons besoin de régulièrement lancer des campagnes de recrutement. Chacune des armées, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, mais aussi les agents civils, lancent des campagnes de recrutement parce que c'est un flux continu de renouvellement des compétences et des générations. Et pour une raison simple, c'est que nous avons besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes jeunes.
Ah oui, c'est ça, j'allais vous demander s'il y avait une génération particulièrement ciblée. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en reconversion doivent absolument faire une croix sur certains métiers de l'armée, ça ne veut pas dire ça pour autant.
Ah non, absolument pas, absolument pas. Non, nous recrutons majoritairement des jeunes, parce que le métier militaire, que ça soit dans l'armée de l'air, dans la marine ou dans l'armée de terre, est exigeant, donc il faut être en bonne condition
physiquement physique. Exigeant.
Physiquement exigeant.
Ouais.
Et donc c'est pour ça, 90% de nos recrutements, ont moins de 25 ans. Mais pour autant, on peut rejoindre le ministère des Armées en étant civil ou en étant réserviste. Parce que c'est aussi un projet que nous portons, c'est de permettre à des salariés en France de rejoindre à temps partiel le monde militaire en étant vraiment militaire.
Mmh. Pascal, une question ?
Oui, la difficulté, c'est de recruter des jeunes, mais jusqu'à quel âge on peut recruter ? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, vous parlez de conditions physiques, mais pour permettre plus de recrutement, je crois que le général Schitt, le chef d'état-major de l'armée de terre, disait, on va commencer à assouplir les conditions physiques. Jusqu'à quel point ?
Alors, il y a un point sur lequel je pense que chacune des armées ne transigera pas, c'est malgré tout une aptitude physique à supporter les charges de l'emploi. Quand on est à la mer pendant de longs mois ou quand on est engagé dans l'armée de terre, dans des théâtres d'opérations extérieures, physiquement c'est exigeant. Pour autant, on s'adapte aussi à la condition physique des jeunes Français, des jeunes Françaises, et plutôt que de réduire les exigences, nous accompagnons, donc nous sommes plus progressifs une fois qu'ils ont rejoint le rang de chacune des armées, sur finalement l'évolution du potentiel physique. C'est plutôt dans cette direction-là. Donc je pense qu'il ne faut pas transiger sur les exigences physiques au recrutement, mais qui sont accessibles à la plupart des jeunes Français, des jeunes Françaises.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Vous parliez tout à l'heure d'une multitude de métiers. Est-ce qu'on peut un petit peu balayer ces métiers ? On parle de l'armée, on pense évidemment aux militaires sur le terrain, mais évidemment c'est bien plus vaste que ça. Donnez-nous des exemples.
Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Alors bien évidemment, chacun des téléspectateurs a en tête les pilotes de chasse, les combattants terrestres ou les équipages de sous-marins, mais c'est plus large que ça, parce que pour projeter une force, en fait, il faut derrière une expertise absolument incroyable. Et par ailleurs, il y a des nouveaux champs de conflictualité qui émergent, ce qu'on appelle les nouveaux espaces communs, c'est-à-dire l'espace, les fonds sous-marins et puis le cybernétique, où là, en fait, les combats se passent dans des espaces qui sont non géographiques. Et donc, ces compétences-là, l'intelligence artificielle, le cyber, l'exploration des fonds marins, la maîtrise du domaine spatial, là aussi, nous avons besoin de compétences civiles comme militaires.
Pascal.
Ça reste tout ce qui est... Tous les emplois qui sont liés au cyber, qui sont liés à l'espace, c'est des emplois en tension. Les entreprises privées recrutent. Comment vous faites pour ne pas aggraver le départ de militaires ou de personnel civil des armées vers le privé ? Parce que c'est un peu ça qui se passe. On a parlé avec beaucoup de militaires qui disent qu'on a formé, par exemple, quelqu'un sur une chaufferie nucléaire d'un bateau ou d'un sous-marin. Il intéresse des professions civiles qu'il recrute. Après une dizaine d'années de formation, il recrute quelqu'un qui est employable immédiatement.
Oui, bien sûr. Alors, c'est tout le défi auquel nous sommes collectivement confrontés.
C'est d'abord, la fidélisation.
Voilà, c'est la fidélisation. D'abord, il faut les recruter. Et sur ces métiers émergents, ce que nous proposons est absolument extraordinaire, parce que quand on est attiré par les questions cyber, on trouvera au ministère des armées des moyens qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. On opérera dans des champs qu'on ne fera nulle part ailleurs. Et puis ensuite, vous avez raison sur votre deuxième question, comment on les garde ? On les garde d'abord parce que on leur propose des parcours professionnels extrêmement extrêmement intéressants. Et puis on les garde aussi parce que il faut le dire à nos téléspectateurs, on les garde aussi en leur proposant des outils salariaux qui sont tout à fait attractifs. Mais nous ne les gardons pas à n'importe quel prix, parce que encore une fois, nous avons besoin de gens jeunes. Et c'est toute la promesse de sociale que nous avons, c'est que nous reconvertissons les jeunes femmes et les jeunes hommes qui rejoignent les armées, qui passent 10, 15, 20 ans, et ensuite on leur propose de les accompagner vers une nouvelle vie professionnelle avec de la formation et de la transition professionnelle.
Quelle est la formation requise sur cette campagne spécifiquement ? Parce qu'on va parler de l'actualité. Vous dites que vous recherchez des profils jeunes, ça c'est une chose. Vous recherchez un certain niveau de diplôme, ou est-ce qu'il y a possibilité d'être formé directement par l'armée ?
Alors, je vais employer une expression un peu rapide, mais on ne trouve pas de militaires sur étagère. Donc, nous formons tous ceux qui nous rejoignent. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous proposons des emplois et des aventures à à tous les jeunes, quel que soit leur diplôme. Sans diplôme. Et nous accompagnons, nous avons nos propres bacs professionnels, nous avons des BTS, mais y compris à des ingénieurs diplômés par les plus grandes écoles. Mmh. Et donc en fait, le message qu'on veut passer, c'est quel que soit votre niveau de diplôme, vous trouverez une place et vous serez formé au ministère des Armées pour exercer l'emploi pour lequel vous êtes venu.
Dans votre phase de recrutement, quelle est la part de personnes que vous voulez sur le terrain et la part de personnes que vous voulez à l'arrière des opérations? Est-ce que ça peut d'ailleurs se chiffrer de cette façon-là?
Alors, je suis pas sûr que ça puisse chiffrer. Le cœur du cœur, ce sont bien sûr les forces, c'est-à-dire l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air.
Les combattants.
Mmh. Les combattants. Mais pour donner des ordres de grandeur, c'est trois parties, c'est trois, voilà, ça fait à peu près 150 000 hommes et femmes, voilà. Mais derrière, nous sommes 270 000. Et alors, les autres ne sont pas dans les bureaux, ils participent directement à la capacité des forces à être projetées. Je prends un exemple. L'entretien des moteurs de Rafale. Le Rafale, c'est un avion qui est maintenant mondialement connu. Il est fait par des agents civils dans des ateliers du ministère des Armées. Mmh. Et ceux-là, ils sont absolument indispensables à la projection de force par l'armée de l'air à travers ces avions de chasse.
Mécanicien sur un moteur de Rafale, c'est quand même très particulier. Ça veut dire que c'est l'armée qui a formé du personnel à cette fonction-là?
Exactement. Une grande partie de l'entretien et de nos techniciens sont formés chez nous sur les systèmes les plus exigeants. Je parle du Rafale, mais c'est également le cas sur le matériel terrestre. Et donc, nous les formons et nous essayons de les garder. Mais là aussi, la concurrence est sévère avec les entreprises.
On a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Jonas nous demande, l'armée a fait un formidable progrès en professionnalisant les métiers. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de cohésion entre l'enseignement général et les armées en proposant des formations dès le lycée? Effectivement, ce serait pas peut-être un bon moyen, ou alors ça existe déjà? Thibaut de Vincey.
Alors, ça existe en partie. Il y a dans plus de 300 lycées, collèges de France, des classes de défense et de sécurité. C'est un programme qui est proposé par les professeurs et qui, au cours d'une année scolaire, met en contact des jeunes lycéens avec des unités. Et donc, c'est un premier contact avec la réalité de la vie des armées.
Est-ce qu'elles sont implantées, ces formations, dans des zones où il y a spécifiquement une présence de l'armée française?
Il y en a à peu près partout en France. Partout en France. Et donc, moi, j'invite les professeurs à venir nous voir, proposer leurs projets. On les accompagnera bien volontiers. Et puis, par ailleurs, vous savez que tout jeune Français doit suivre sa journée de défense et de citoyenneté, qui est aussi un premier contact avec le monde militaire.
Pascal.
Vous avez lancé une opération, je crois que c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'octobre, de recrutement sur le métavers. Vous pouvez nous en parler? Vous avez un peu d'informations là-dessus?
Oui, c'était une expérimentation.
Oui, bien sûr.
Une expérimentation qui consistait à essayer de faire connaître le métier militaire en utilisant la technologie du métavers. Donc c'était vraiment une expérimentation parce que nous essayons en permanence, et y compris dans les fonctions de recrutement, les fonctions RH, d'aller capter les meilleures technologies pour remplir nos objectifs de recrutement.
Et là, c'était sur des fonctions particulières ou c'était pour toucher une classe d'âge en particulier?
Non, c'était vraiment sur des fonctions très 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 particulières. L'expérimentation dure 3 mois, elle est en cours. On verra si on donne suite à cela. Mais plus largement, on est très attentif à aller toucher les jeunes là où ils sont. Ils sont sur les réseaux sociaux, on pourra y revenir si vous voulez, de façon à pouvoir avoir un premier contact, en tous les cas capter leur attention, parce que nous avons des choses absolument incroyables à leur proposer.
Quelle est la part entre les hommes et les femmes dans le recrutement que vous entreprenez et actuellement dans les armées, la part d'hommes et de femmes présents dans ces postes?
Alors, les armées françaises sont les armées les plus, parmi les plus féminisées au monde. On est la quatrième armée la plus féminisée. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 16% de femmes, mais c'est très variable en fonction des armées.
Oui.
Il y en a beaucoup dans l'armée de l'air, plus de 20%, un peu moins dans l'armée de terre, mais c'est à raison des métiers exercés. Et nous sommes tout à fait à l'offensive pour aller capter les femmes, parce que elles sont elles aussi indispensables à la tenue de nos objectifs opérationnels.
Comment quels arguments on peut développer justement, alors c'est peut-être justement par les moyens techniques, comment on les atteint pour effectivement convaincre une jeune fille de venir travailler pour les armées, quel que soit le poste.
Alors, on a en fait trois idées. La première, c'est donner envie d'y venir. Et donc, c'est casser les stéréotypes, c'est-à-dire être militaire, ce n'est pas réservé aux hommes. Et très concrètement, aujourd'hui, tous les emplois sont accessibles à des femmes. Il y a des femmes pilotes de chasse. Depuis 3 ans, on a ouvert les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins aux femmes. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun emploi militaire qui est réservé aux hommes.
Un seul, je crois. La Légion.
Il y a la Légion.
Effectivement.
La Légion. Et puis, une fois qu'elles nous ont rejoints, il faut aussi qu'elles restent. Et donc, on a tout un programme d'adaptation, parce que le métier militaire est exigeant, entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Ouais.
Et puis, la troisième idée, c'est envie d'y évoluer. Hein, d'y évoluer, et pour ça on a quand même quelques rôles modèles qui sont très importants pour donner aux jeunes filles l'idée de cette carrière qui est absolument passionnante et pour lesquelles les femmes sont également pleines de talents et de ressources.
Il n'y a pas de métier interdit aux femmes, c'est important à entendre. Pascal.
En 2023, l'armée n'en a pas fait secret. Il y a eu un déficit de recrutement. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ce déficit de recrutement et comment on peut le résorber? Parce que il va falloir recruter beaucoup. C'est dans la LPM 2024-2030.
Oui, vous avez raison de citer la loi de programmation militaire. C'est 400 milliards d'euros qui seront consacrés à l'effort de défense d'ici 2030, avec des investissements tout à fait significatifs. Et en 2023, nous avons connu effectivement des difficultés de recrutement, alors qui sont très centrées sur l'armée de terre et sur les militaires du rang de l'armée de terre. Mais comme je vous l'ai dit, recruter 30 000 personnes, c'est un défi quotidien, c'est un défi hebdomadaire, c'est plus de 600 personnes par semaine qu'il faut recruter. Alors, c'est très lié, parce que vous voulez des explications, c'est très lié à la situation du marché de l'emploi qui est très dynamique en France et auxquels les armées, qui, encore une fois, sont le premier recruteur de France, sont confrontées. Et donc, là, nous avons réagi, c'est l'objet des campagnes de recrutement, mais il faut aussi que nous agissions, nous le faisons, sur les départs, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des flux.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, on est aussi très attentif à la fidélisation des hommes et des femmes qui nous ont déjà rejoints.
Est-ce qu'on sait à peu près en moyenne combien un soldat reste dans l'armée au cours de sa carrière? Un soldat qui est rentré militaire du rang.
Alors, un militaire du rang, en moyenne, ça dépend encore des armées, mais en moyenne, il reste un peu plus de 6 ans militaire. Et puis ensuite, on l'accompagne vers une autre vie professionnelle, parce que c'est vraiment la promesse que nous faisons. Pour les sous-officiers, on est plutôt aux alentours de 12-13 ans. Et pour les officiers, on tangente les 20 ans.
Est-ce que la multiplication des conflits, le contexte international, vous amène, entre guillemets, des candidats, donne l'envie à certains jeunes de s'engager tout simplement dans l'armée?
Alors, c'est très ambivalent. Bien évidemment, le contexte international remet les questions de défense, de sécurité au cœur de préoccupations des Français. Et en cela, c'est plutôt un facteur qui favoriserait le recrutement. Et on a très bien vu, après les attentats de 2015, à quel point la jeunesse française avait montré qu'elle souhaitait s'engager pour le pays, ce qui est un signal extrêmement positif. C'est ambivalent aussi parce que tout ça est lointain. parfois compliquées à comprendre. Et puis, moi, je m'adresse également aux parents, parce que ils sont aussi prescripteurs, aux parents. Ça peut aussi faire peur, parce qu'il y a des images qui sont véhiculées sur les armées. Ça peut aussi faire peur pour un père, une mère, d'avoir un enfant qui s'engage.
Est-ce que, justement, ceux qui s'engagent aujourd'hui, il y en a une grande partie qui ont beaucoup de militaires dans leur famille, dans leur entourage. Est-ce que ce modèle qu'ils ont eu, perpétué cette tradition, existe encore et est encore important dans les effectifs?
Alors, oui, alors il existe toujours, mais quand on regarde l'origine des jeunes qui nous rejoignent, en fait, l'endogamie a plutôt tendance à diminuer et elle est pas très importante. Hein. C'est moins de 10% des gens qui nous rejoignent qui ont un père ou une mère qui est dans les armées. Mmh. Et donc, ça montre bien que on intéresse au-delà de notre premier cercle.
Pascal.
Les jeunes, quand vous parlez de la période après les attentats, quand les jeunes ont voulu s'engager en force, avaient l'image du combattant. Et une fois qu'ils se sont engagés, ils se sont rendus compte que l'armée, c'était pas juste aller dans un pays combattre ou rester ici et combattre. Est-ce que c'est pas un problème d'image de l'armée qui ne sait pas communiquer sur la richesse et la diversité, faire la part entre le combattant et tous les autres emplois aussi nécessaires, mais tous les autres emplois accessibles?
Alors vous avez raison, en fait on est en train de vivre des transitions capacitaires, ce qu'on appelle les transitions capacitaires, donc on a besoin de, toujours en gardant nos forces opérationnelles, de nouveaux métiers, de nouvelles expertises. C'est pour ça qu'on est très allant depuis 3 ans sur le recrutement de civils. On a un site qui s'appelle Civil de la Défense, où on propose énormément de métiers qui accompagnent les forces et sans doute, vous avez raison, qu'il faut être encore plus pédagogue sur les métiers que l'on peut exercer au sein du ministère des Armées sans être militaire.
Une question de François sur LinkedIn. Quelle est la part de recrutement dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air? Laquelle est la plus attractive finalement?
Alors en fait, c'est pas une question d'attractivité, c'est une question de besoin. L'armée de terre recrute environ 14 000 personnes par an. L'armée de l'air et de l'espace, c'est 4000 personnes. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes rapports.
Et pas seulement des pilotes de rafale.
Et pas seulement des pilotes de rafale, parce que l'armée de l'air, c'est bien évidemment des avions, du contrôle aérien, des bases aériennes, des munitions et des mécanos.
C'est tout ça, hein. C'est tous ces métiers-là qui sont effectivement demandés. Tariq nous demande, les postes sont-ils ouverts aux plus de 40 ans? C'était ma question tout à l'heure, effectivement, sur les personnes finalement qui sont en reconversion. Et quels sont les salaires et les statuts proposés? Est-ce qu'on est en CDI ou est-ce qu'on a un autre statut?
Alors, passé 40 ans, à part être réserviste, on ne peut plus devenir militaire. En revanche, on peut servir au ministère des Armées comme civil. Et là, on a toute une gamme de contrats et la principale forme de contrat au ministère des Armées, c'est pas le fonctionnaire, c'est le CDI ou le CDD en fonction des besoins du ministère et des attentes du salarié. C'est aujourd'hui un civil sur deux qui nous rejoint qui est un contractuel.
Comme dans n'importe quelle entreprise.
Comme dans n'importe quelle entreprise.
On avait cette question, en quoi le fait d'intégrer l'armée plutôt qu'une autre administration est-il particulier? C'est quoi la différence avec l'armée? Pourquoi on irait spécifiquement dans cette administration-là?
Alors moi j'aurais trois réponses. D'abord, c'est parce que la mission est à nul autre pareille. Défendre les Français, voilà, ça a du sens, c'est de la valeur. La deuxième chose, c'est la densité humaine que l'on trouve quand on rejoint le ministère des Armées. C'est un collectif, c'est l'esprit d'équipage. Et puis, le troisième motif d'intérêt qui nous différencie par rapport à des entreprises, c'est qu'il y a une intensité technologique au ministère des Armées qui est incroyable. Voilà. Enfin, j'ai donné les chiffres du budget de l'armée. Là, en 2024, ça va être 47 milliards d'euros, dont une grande partie, c'est de l'investissement. C'est les meilleurs technos. Ouais. Et c'est les technos de rupture.
L'armée est en pointe.
Oui, je crois qu'on peut le dire, oui.
Pascal.
On voit sur les réseaux sociaux des influenceurs, alors je sais pas s'ils sont directement liés à l'armée, mais des influenceurs militaires, hein, je pense au major Gérald dans la Légion, je pense à Marius dans les commandos marines, je pense à un tas de gens comme ça qui s'expriment. Est-ce que ils sont encadrés par l'armée et est-ce que ce qu'ils font, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé, a des effets sur le recrutement?
Oui, c'est évident que les deux exemples que vous citez ont un impact sur l'image que ça renvoie sur les viviers que nous visons. Est-ce que nous mesurons ça? Non, nous ne mesurons pas l'influence du major sur le recrutement dans la Légion, puisque c'est un légionnaire en l'occurrence.
C'est un légionnaire.
C'est un légionnaire. En revanche, qu'est-ce qu'il porte? Il porte, et je vois bien ces deux influenceurs, il porte en fait toute la richesse humaine que nous proposons. Et ça dépasse le simple cadre de la Légion. Et en cela, ils participent, et on les en remercie, à nos campagnes de recrutement.
Pascal,
juste pour finir sur la Légion, il y a un recrutement très sévère. Tout le monde n'est pas recruté. Je crois que c'est 3 personnes sur 10 environ. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire transiter les 7 personnes qui ont échoué vers d'autres régiments où on pourrait avoir besoin d'eux, vu que c'est des gens quand même qui veulent servir?
Alors, on le fait. Mais vous savez, quand un jeune rentre dans un centre d'information et de recrutement, il y en a 100 en France, il y en a à peu près partout.
Un CIRFA.
Un CIRFA, oui.
CIRFA,
oui. Centre d'information et de recrutement des forces armées. En fait, il vient pour devenir marin, pour devenir aviateur ou pour devenir militaire de l'armée de terre. Et les 3 forces armées sont représentées au même endroit. Donc, bien évidemment, il y a des échanges. Mais le jeune, il a souvent déjà son projet. Voilà.
Ouais.
Une question avant de redonner la méthodologie pour se présenter tout simplement à ce recrutement. Qu'est-ce que les candidats attendent de l'armée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors, très nettement, ils attendent d'avoir un métier qui a du sens. Voilà, qui a du sens. Ils recherchent l'aventure, parce que l'aventure n'a pas disparu. L'aventure est là. Et ils recherchent une communauté humaine. Voilà, une communauté humaine. On ne se rend pas compte à quel point la richesse des relations humaines est un facteur d'attractivité et de fidélisation. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc ça, c'est très évident. Et puis, il ne faut pas, c'est un phénomène nouveau. Ils cherchent aussi de la technologie. Ça, c'est voilà.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement.
Ça, c'est vraiment très, très important.
On redonne, effectivement, ces moyens, peut-être Pascal, Thibault, pour candidater, tout simplement. Thibault.
Alors, on a plusieurs vecteurs pour nous rejoindre. D'abord, bien évidemment, sur Internet, chaque armée a son site de recrutement, s'engager.fr pour l'armée de terre, devenir aviateur, recruter, la marine recrute pour la marine, et puis civil de la défense, qui est le deuxième recruteur après l'armée de terre. Le deuxième recruteur, c'est du recrutement civil. Et puis, pour avoir un premier contact, on peut aller vers un centre d'information et de recrutement des forces armées. Il y en a plusieurs à Paris. Il y en a dans tous les départements. Il y en a un à moins de 100 km de chaque Français et de chaque Française. Et donc, il faut pousser la porte et là, vous serez très bien accueillis.
Merci beaucoup Thibault Devancé de Blavou DRH du ministère des Armées d'être venu nous parler de cette campagne de recrutement. Merci Pascal Savama.
Merci Sandra, à toi.
Pour cette émission spéciale recrutement dans les armées.
90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.